Patria, patriarca, 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 patriarca.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger
une émission féministe
les 2e et 4e mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Crise, discipline, force, guerre, société disciplinaire, langage numérique, enfermement, moule, moulage distinct, contrôle, modulation, moulage, auto-déformation, tamis, maille, usine, production, salaire, société de contrôle, entreprise, l'entreprise est une âme, un gaz, système des primes, modulation des salaires, état de perpétuelle métastabilité, challenge, concours, colloque, jeu télévisé, situation d'entreprise, patronat, surveillant, masse, syndicat, résistance, entreprise, rivalité, motivation. Individu, divisé, divisé, salaire au mérite, éducation nationale, usine, entreprise, école, contrôle continu, examen, école, entreprise. De l'école à la caserne, de la caserne à l'usine, l'entreprise, la formation, le service, modulation, déformateur universel, procès, acquittement, atermoiement, contrôle, enfermement, masse, échantillon, données, marché, banque, argent, 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 discipline, monnaie, or, nombre, contrôle, échange flottant, chiffre, pourcentage, serpent. Taupe, serpent, taupe, rapport à autrui, surf, mise en orbite, machine, forme sociale, levier, poulie, horloge, montre, horaire, société disciplinaire, virus, technologie, virus, capitalisme, virus, technologie, production, propriété, usine, enfermement, capitalisme, propriété, production, propriétaire, producteur, projet, la famille, l'ouvrier, l'école, la famille, l'ouvrier, l'élève, marché, spécialiste, colonisateur, coût de production, capitalisme de surproduction, produit tout fait, pièce détachée, vendre des services, acheter des actions, vendre des actions, produit, vente, marché, entreprise, chiffre, gestionnaire, déformable, transformable, art, culture, banque, conquête de marché, prise de contrôle, discipline, fixation des cours, abaissement des coûts, transformation, corruption, distance, service de vente, l'âme de l'entreprise, impudence de nos maîtres, marketing, dette, capitalisme, misère, dette, enfermement, marketing, frontières, bidonvilles, ghettos, ce n'est pas de la science-fiction. Enfermement disciplinaire, régime des prisons, régime des écoles, contrôle continu, formation permanente, entreprise, régime des hôpitaux, nouvelle médecine, sujet à risque, progrès, régime de l'entreprise. Produits, institutions, domination, inaptitude des syndicats, société de contrôle, motivation, stage, formation, servir, s'agenouiller, être domestiqué, discipliné.
Bonsoir, alors vous êtes sur Dégenré et on vient d'entendre en introduction un petit montage sur la société disciplinaire et la société de contrôle, parce que ce soir sur Dégenré, on parle des prisons, des femmes, des lesbiennes et de la prison.
Donc voilà, donc ça sera tout le mois, on parlera des femmes, des lesbiennes en rapport avec la tôle, à travers un cycle de 3 émissions croisées avec l'émission Les Murs ont des oreilles, une émission anticarcérale, et qui passe aussi sur Radio Kaléidoscope. Donc ces 3 émissions, c'est aujourd'hui le 9, le 16 et le 23, de 18h30 à 20h. Alors, pourquoi on a eu envie de parler des femmes lesbiennes en rapport avec la tôle ? Parce que en tant que féministe, il est clair pour nous que le système carcéral, c'est un des moyens utilisés par le patriarcat pour réprimer, punir les femmes déviantes, les délinquantes, les mauvaises mères, les hors-cadres. C'est en fait la double punition. En plus de refuser le jeu social, elles ne correspondent pas aux normes sexistes en vigueur. Mais si la prison est un moyen ultime de répression, le contrôle social et normatif s'étend bien au-delà des murs. Dans toutes les sphères sociales, il se fait sentir, à commencer par la famille.
Alors en fait, aujourd'hui justement, c'est vraiment une émission qui va plus traiter du contrôle social, et on va avoir beaucoup de témoignages, notamment des témoignages de femmes, enfin la plupart des témoignages, c'est des témoignages de femmes qui sont incarcérées ou enfermées ou qui ont été en prison, et qui parlent de l'extérieur de la prison, et comment l'extérieur c'est aussi enfermant et c'est aussi une tôle. Et il y en a beaucoup qui vont parler aussi de... il y en a certains qui vont parler de la société répressive et du contrôle social de la société avec la vidéosurveillance, les flics, tout ça. Mais il y en a toute une partie qui vont aussi parler du contrôle de la famille, du couple et tout ça. Alors du coup, ça montre aussi comment le patriarcat s'est enfermant, comment... c'est le contrôle social dans la société, et il a comme continuité la prison, et comment quand on essaye d'échapper au contrôle social, de s'en venger, de s'en défendre, et on finit par être incarcéré et mis en prison, enfermé en prison. Alors c'est aussi du coup une répression de l'autodéfense, et c'est ce qu'on va entendre dans plusieurs démontages. Voilà, alors la première partie de l'émission, c'est Big Mama qui parle et qui est canadienne, et donc il va y avoir pas mal de bouts qui retracent c'est quoi les conditions d'incarcération des femmes au Canada et tout ça. Alors voilà, on peut écouter ce montage.
Donc aujourd'hui, vous entendrez d'abord une entrevue avec Big Mama, une femme qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison et qui vit aujourd'hui à Vancouver, dans un ghetto appelé Downtown Eastside. Elle nous parle de la répression policière qui est une constante encore aujourd'hui dans sa vie. Elle parle aussi des centres pour femmes qui sont supposées l'aider mais qui collaborent avec les structures de pouvoir en place. Tout cela orchestré par l'État canadien et autres corporations. Dans la continuité du génocide des Autochtones, nombreuses, nombreux dans ce quartier, et dans la logique de nettoyage social des sans-abri, des marginales, des pauvres, des immigrantes et immigrants, des prostituées. Un an avant les Jeux olympiques qui se sont passés en 2010, Big Mama explique un peu où elle vit, comment elle survit toujours en résistance, en femme guerrière qu'elle est, malgré le désillusionnement qu'elle ressent souvent face à toute possibilité qu'on vainque les forces de l'ordre si puissantes qui la surveillent et la répriment dans toutes les sphères de sa vie. Pour écouter l'entrevue au complet, vous pouvez la trouver sur radioforall.net, radio4all.net, dans la série Out of Control, OUT espace OF espace Control, s'intitulant « Big Mama dans le Downtown Eastside ». Après ce puissant témoignage, nous vous reviendrons avec plus d'informations au sujet des femmes autochtones, des autochtones et des femmes en général qui sont emprisonnées au Canada.
J'ai 25 ans à garder mon oncle propre. Puis quand j'ai sorti dans le dent, j'ai eu ma sentence à perpète. Plus 15 ans pour une poêche dehors sur probation. Ça, j'ai encore une autre 10 ans à aller. Ça fait 5 ans que je suis dehors, ça paraît pas parce qu'ils sont toujours en train de m'arrêter quand même, tu sais. Pour n'importe quelle chose. La manière que j'ai de l'air, Les autres vont m'arrêter puis m'appuyer. Illegal search. Les autres font tout le temps ça.
C'est-tu comme juste les vrais comme policiers ou c'est comme dans le monde aussi qui ont des comportements de même?
Non, rien que des polices. Okay. Les polices puis la RCMP. Parce que c'est fédéral, ça. S'ils sont pas sûrs, c'est quoi le. Pour venir chez nous, là, ils ont appelé la GRC, parce que les autres ne savent pas si j'ai des fusils, puis des affaires de même chez nous, parce que j'étais en train pour meurtre. Ça, les autres pensent tout le temps que. Je suis en train de faire quelque chose pas correct, pas légal. C'est pas vrai.
Est-ce que tu voudrais parler du contexte de ce meurtre?
Ouais, j'avais 15 ans, puis un gars a essayé de me violer, puis je l'ai tué. J'ai blackout parce que mon père et ma mère me violaient tout le temps, puis mes quatre frères, so. J'ai halluciné, puis je l'ai tué. J'ai dit non, Pat, tu ne me violeras plus, puis je l'ai tué. 47 coups de fer dans la tête, puis je l'ai enterré. Puis j'avais 8 amis avec lui, puis. Parce que je l'ai coupé avec des bouteilles de bière, c'est des attentifs de meurtre. Ça, j'ai pogné à papa. Puis 15 ans pour garder la paix quand j'étais hors super ouais.
Puis qu'est-ce qui t'amène dans ton essai aujourd'hui?
C'est parce qu'on peut pas payer pour d'autres choses. Mm. Puis j'étais sur la rue, puis les autres m'ont emblé de la rue. Puis les autres m'ont mis à le Golden Crown Hotel. Puis je fais 750$ par mois là pour rien. J'ai même pas le droit d'avoir des visiteurs, rien. Ça là, c'est ça. Et je vais déménager parce que j'aime pas le coin. J'aime ma place et être ma place. Pas la place à ma place, puis toutes les cochons de leur place. Tu comprends? Mm. C'est tannant. T'es pas capable de rien faire quand t'as juste une parole à vie. Tu qu'est-ce que tu fais? Les autres agnaises, so, tu sais. Comment tu dis ça, volunteer?
Yep,
that's what I want to ask. Je fais du bénévole au Women's Center parce que j'étais opérée pour mon cancer. Les autres ont pris mon officier de probation puis dit, oh, je travaille pas. Rien que deux jours, j'ai pas travaillé, tu sais. Après ça, le RCMP vient me voir, puis j'ai envoyé mon officier de probation. Les autres vont me coller en prison pour un autre 10 ans. Et c'est vraiment de blackmail.
De ton expérience avec les personnes qui travaillent au Women's Center, juste dans cette place-là?
Ils sont bien hypocrites. Les autres agissent comme les autres sont en train de t'aider, puis les autres t'aident pas en fond. C'est plus pour faire like, sont corrects, puis sont pour nous autres, mais en fond, ils sont pas pour nous autres.
Toi, tu travailles là, mais t'es pas un staff member.
Non. Je suis juste bénévole. I volunteer.
Do you have the same
wages as them? No. I volunteer.
Elle reçoit 100$ par mois sur son chèque quand elle reçoit son chèque.
Tu disais aussi une fois, on parlait du centre des femmes, puis on le comparait comme un centre de police.
Ah, c'est. Toutes tes informations, tu donnes secrètement. Si ça a à faire avec la drogue, la violence, n'importe quelle chose, la police, ça sait. Les autres la rapportent à la police. Même si les autres disent, les autres la font pas, c'est la bullshit, les autres la font.
Puis en plus, ce centre-là, ils vont souvent organiser des affaires activistes, supposément contre la brutalité.
Oui. Puis ça, je sais pas pourquoi les autres font ça, parce que rien. They got nothing to show for it.
Ils sont pas à la hauteur de leurs revendications. Et puis ils gagnent rien à faire ça. C'est juste du travail pour rien. Tu fais une marche, ça sert à rien. On n'a toujours pas nos logements sociaux pas chers. Tout ça, ça sert à rien. Avec les Olympiques, s'ils veulent t'acheter d'ici, ils vont t'acheter d'ici. Fait qu'ils peuvent réparer chez toi pour le louer à 2000$ le mois ou plus. Ils s'en calissent de toi. Ils s'en calissent si t'es dans la rue. Ils s'en calissent si t'as faim ou quoi. Il y a des gens qui sont tellement high qu'ils peuvent pas aller dans les files d'attente des soupières ou qui peuvent pas entrer dans les soupières parce qu'ils sont trop high ou sous. Fait qu'ils leur donnent un sac à lunch. Parce que tu peux pas être dans la maison de Dieu si t'es high, voyons donc.
Y a-t-il d'autres organisations qui existent pour les femmes dont tu voudrais parler?
The Wish, c'est pas une bonne place pour les femmes, premièrement.
C'est quoi ce Wish?
Wish, c'est une place, c'est pour les prostituées, pour aller manger là, prendre une douche là, poigner des condoms, du linge, de la bouffe. Ben là, tout le temps des undercover qui se travaillent là. Tu sais, une journée, c'est une undercover, le lendemain, c'est une autre, tu sais. Jamais la même, tu sais. C'est pour poigner les formations de les filles. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui se vendent la drogue, qui se travaillent la rue pour supporter le habit dans la drogue. Puis là, les autres essaient de poigner leur chum, puis ça veut tout le temps savoir l'information. Comme ça, ils ne sont pas supposés demander où tu restes ou de où tu viens. Ils ne sont pas supposés demander ça. Ben, les autres l'ont fait. Puis ça, c'est pour donner l'information à les bœufs, à les cochons, à les polices. Ça, c'est pas correct. Les autres, ils sont là pour nous autres, puis ils sont pas là pour nous autres. Ils sont rien que là parce que ça donne l'argent à la place, puis ça leur donne un job. Parce que là, beaucoup, les femmes qui travaillent là, eux autres crient après nous autres. Tu vas avoir 5 minutes en retard de le dîner, là, même si là, en masse tu manges, nous autres, te donneront pas une assiette, même si t'as faim. Oh, sorry, the kitchen's closed, we can't help you. Not go fuck somewhere else, you know, they're hypocrites. They don't care about us.
Tu voudrais-tu parler plus des hôtels ici?
Les hôtels ici, là, ça marche pas direct. C'est tout organisé avec les cochons. Les polices ont le droit de rentrer en ta chambre n'importe quel temps. You don't got no rights.
T'as pas de droit. Tu vis dans le downtown east side, dans le ghetto. T'as pas le droit à aucune intimité. La police peut faire un raid chez toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis c'est correct.
It's okay. Le monde est tout classé dans le même milieu. Comme, même si tu fais pas de drogue, les autres, tu fais de la drogue. Tu win pas. Le pas win en nous parle, tu sais. T'es jugé, puis that's it. T'es jugé, puis classé comme un junkie, that's it, that's all. Tu fais du temps pour longtemps, même si t'as fait 27 ans, tu payes quand même la facture pour être en dedans tout le temps. Surtout si t'es une lifer. T'as pogné à pépère. Alors, c'est payé. Ils ont pu venir chez nous n'importe quel temps, venir me chercher puis m'en mettre en dedans pour un autre 10 ans. Puis là, rien, un avocat, personne ne peut faire rien. They'll say I broke my probation.
Ils diront que j'ai enfreint ma probation. T'es censé être innocente jusqu'à ce que tu sois prouvé coupable. Ici, c'est le contraire. T'es coupable jusqu'à ce que tu sois prouvé innocent. T'as pas le choix. Même s'ils disent qu'ils peuvent pas faire ça, peuvent pas faire ça, nous, on sait ça. Mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Peu importe qui t'es. S'ils veulent te crisser en prison, ils vont te crisser en prison.
If they want to take you to jail, they'll take you to jail.
Donc, vous venez d'entendre un extrait de la chanson House of D d'Ecolalia. Et pour revenir sur ce que Big Mama disait, si vous n'avez pas compris, déjà, je vous conseille de la réécouter en faisant l'effort de comprendre son français. Sinon, je peux expliquer quelques termes qu'elle emploie, comme lifer, qui veut dire qu'elle a été condamnée à perpétuité ou à perpète, comme a dit. Quand elle parle d'illegal search, ça veut dire qu'elle se fait fouiller illégalement. La RCMP ou la GRC, c'est la police fédérale, qui s'appelle la Gendarmerie royale du Canada. Undercover, c'est un infiltrateur, un agent de police qui s'habille comme madame, monsieur, tout le monde, afin de passer inaperçu et de ne pas dévoiler son identité de policier. Donc maintenant, j'aimerais donner quelques informations sur l'incarcération des gens au Canada, notamment des Autochtones, qui sont particulièrement affectés par le système carcéral canadien. Et tout au long de cette émission, nous focuserons aussi particulièrement sur les femmes autochtones.
Donc je vais vous lire un extrait tiré d'une brochure faite par Stark Raven, qui est un groupe de femmes à Vancouver qui font de la radio au sujet de l'incarcération et tout ça, sur les luttes anticarcérales. Et cette brochure rapporte notamment que le nombre d'Autochtones incarcérés au Canada est disproportionnellement élevé. Les chiffres qu'elle rapporte le prouvent aussi, disant que chez les adultes autochtones, le taux d'incarcération est de 1024 personnes pour 100 000, comparativement au taux d'incarcération national qui est de 131 sur 100 000 adultes pour toute la population. Ça dit aussi qu'à cause des modèles eurocentrés des échelles de classement, les prisonnières et prisonniers autochtones sont généralement classifiés comme étant un danger de risque plus élevé et sont ainsi plus souvent placés dans des prisons de sécurité maximale, plus souvent que les non-autochtones qui subissent les mêmes peines. 46% de toutes les femmes qui sont condamnées à une sécurité maximale sont autochtones. Historiquement, les prisons ont été utilisées comme moyen de contrôle social à travers le monde, à la fois contre la race ou contre la classe. Elles sont essentiellement des entrepôts pour les pauvres, les marginalisés et les dépossédés. Au Canada, les prisons ne sont en rien différentes. Le racisme systémique est présent à tous les niveaux du système juridique. Ce qui m'a donné envie de partager avec vous un texte concernant la spiritualité des Autochtones en prison, qui résume un peu l'histoire d'incarcération chez les Autochtones au Canada et qui montre à quel point ça fait longtemps qu'elles et ils sont minés par le système d'incarcération, notamment dans l'institution des réserves qui ont été instituées à la fin du 19e siècle sous la loi des Indiens. Donc, c'est un article que j'ai traduit de Wimikika, qui est un site où vous pouvez trouver de l'information sur les luttes autochtones, qui est super intéressant. Ça s'écrit WII'NIMKIIKAA. Vous pouvez trouver aussi le lien à ce site-là sur un site d'information sur les luttes autochtones en français qui s'appelle Kaka Canada. Alors, la spiritualité des Autochtones en prison. Quand les passes de contrôle pour contrôler les allées et venues des prisonnières ont été introduites aux prisons pour femmes en 1982 ou 1983, ça faisait écho à une autre histoire. Nos ancêtres devaient obtenir des passes de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, ou des agents indiens pour voyager hors de leur réserve. Maintenant, nous devons avoir une permission par écrit pour monter quelques étages ou pour faire 3 pas de la zone A à l'hôpital. Nos ancêtres avaient aussi compris que de telles lois étaient faites pour être brisées. Citation de French Sugar et Lana Fox en 1990. Les missionnaires chrétiens ont joué un rôle essentiel dans l'établissement de la colonie britannique au Canada. Les missionnaires ainsi que les marchands de fourrures ont été les forces qui sont entrées en contact avec les peuples indigènes les premiers et qui les ont exposés aux maladies et à l'alcool, ce qui débuta la destruction des cultures autochtones. Une fois que les militaires ont vaincu les personnes indigènes et qu'ils les ont emprisonnées dans des réserves, l'indoctrination du système européen était alors plus systématique et efficace. Les colonisateurs ont compris qu'il fallait casser l'esprit des gens afin d'éliminer l'insurgence indigène sur le long terme. Le système de réserve a permis au développement industriel et à l'établissement des colons de gagner du terrain, tout en contentant les missionnaires d'un public captif. L'assimilation a été établie comme politique officielle du gouvernement sous la loi de civilisation graduelle de 1857 qui devint la loi des Indiens en 1876. La loi a été modifiée en 1884 afin d'interdire les danses spirituelles et les potlatches, et en 1895, la législation a été modifiée, une fois de plus, afin de criminaliser aussi les danses du soleil, de l'herbe et de la soif. Les agents indiens et la police montée du Nord-Ouest, plus tard renommée la GRC, ont renforcé ces lois en détruisant les huttes de sudation, dites sweat lodge, même si ces huttes n'étaient pas particulièrement interdites par la loi. Tout Indien qui participait à des cérémonies spirituelles pouvait subir une peine de prison de 2 à 6 mois. Les agents indiens détenaient aussi le pouvoir de gardien de la paix et de mener un procès où ils le voulaient. Les agents de police et les agents indiens contrôlaient le mouvement des gens indigènes des prairies avec le système de passe. Pour quitter une réserve, une passe écrite par l'agent indien était obligatoire. Le document permettait seulement des sorties qui comprenaient une destination écrite sur la passe et une période de temps décidée par l'agent. Celles et ceux qui n'avaient pas de passe pouvaient être accusés et poursuivis par la justice pour violation de propriété sous la loi des Indiens ou encore pour vagabondage sous le code criminel. Le système de passe a servi à isoler les communautés autochtones les unes des autres et à empêcher une résistance coordonnée contre la colonisation. C'est devenu très important pour les officiers coloniaux à cause des rébellions des Métis et des Cris qui se sont passées en 1869 et 1885. Les modifications de la loi des Indiens en 1884 obligeaient les Indiens de moins de 16 ans d'aller à l'école résidentielle chrétienne. Ces écoles étaient alors une autre forme d'incarcération qui comprenait systématiquement de l'abus mental, physique et sexuel, et souvent mortel. Les enfants étaient coupés de leur famille pendant la majorité de l'année et il leur était interdit de parler leur propre langue. La culture et la spiritualité indigène étaient intentionnellement anéanties et remplacées par la chrétienté ainsi que le travail manuel. Les idées européennes de la suprématie blanche et du patriarcat étaient imposées aux gens indigènes dès un jeune âge. En 1951, les interdictions comprises dans la loi des Indiens qui sanctionnaient les pratiques spirituelles ont été retirées, mais il est toujours refusé aux gens autochtones prisonniers du système carcéral canadien leur liberté spirituelle. Des risques ont été pris afin de pouvoir pratiquer la spiritualité, mais ont été réprimés par les officiers et gardes de prison, souvent avec violence, y compris l'utilisation de prisonnières et prisonniers blancs contre des détenus autochtones. Pour vous donner une idée de cette disproportion au sein de la population de gens autochtones qui sont incarcérés au Canada, j'ai retiré quelques statistiques tirées de la même brochure dont je vous donnais de l'information un peu plus tôt. Alors, selon ces statistiques, 4% de la population du Canada sont des adultes autochtones, et ce même 4% de la population du Canada est 18% des prisonniers fédéraux, 24% des prisonnières et prisonniers provinciales, 19% des détenus, 20% des sentences sous condition, 32% des femmes en prison. Ce même 4% de la population du Canada, les adultes autochtones, sont en Saskatchewan 35 fois plus incarcérés que les non-autochtones. Ils représentent donc 79% des prisonnières alors qu'ils constituent 10% de la population de cette province. Au Manitoba, ce ratio est de 61% de prisonnières et prisonniers autochtones pour 11% d'autochtones dans la population provinciale. Donc, pour vous donner une idée un peu de cette disproportion au Canada. Chez les jeunes autochtones aussi, on le voit, 5% des jeunes au Canada sont autochtones, 22% de tous les détenus admis et admises sont des jeunes autochtones, 25% de tous les jeunes prisonnières et prisonniers au Canada. Donc, ouais, pour vous donner une idée. Et puis, bien évidemment, ben, les femmes aussi, sont particulièrement visées par le système carcéral et par la répression en général au Canada. Les femmes sont celles qui, parmi toutes les personnes incarcérées au Canada, dont la croissance est la plus accélérée. Une société de l'Association canadienne ou quoi rapportait que l'incarcération des femmes au Canada a augmenté de 200% dans la dernière décennie. Et de ce 200%, le plus haut pourcentage représente des femmes autochtones, femmes de couleur et des femmes qui ont des handicaps mentaux ou cognitifs. Il y a aussi une augmentation du nombre de jeunes femmes qui sont impliquées dans le système judiciaire criminel. Ce sont les jeunes autochtones qui sont disproportionnellement emprisonnés aussi. Pour les 8 à 9 délits les plus communs rapportés au Canada, les jeunes ont des peines plus longues que les adultes. En plus, le Canada emprisonne 4 fois plus les jeunes que les adultes. Le Canada emprisonne les jeunes 5 à 7 fois plus que dans la plupart des villes états-uniennes et 10 à 20 fois plus que dans la plupart des pays européens. La victimisation des femmes est directement liée à leur présence dans le système de justice pour les criminels. Une femme sans statut d'immigrante peut se faire arrêter. Une femme sans statut d'immigrante peut se faire arrêter et être détenue dans des centres de détention, genre des prisons, en attendant les résultats de leur procès. Cela peut durer jusqu'à 2 ans. Et puis bien entendu, il y a aussi les personnes trans qui, une fois derrière les barreaux, le système carcéral les force dans des prisons pour hommes ou pour femmes en fonction de leurs organes génitaux extérieurs, leur manque de respect clair concernant le genre qu'ils affirment. Ces mêmes personnes trans subissent des mesures d'hygiène qui sont inconsistantes et trop souvent négligentes par rapport à leurs besoins. Et bien en plus de ça, ils subissent l'harcèlement et l'abus mental, physique et sexuel. Des révoltes qui ont été initiées par des femmes autochtones, et donc toujours tirées de ce texte la spiritualité des autochtones en prison.
Quelques exemples de résistance dans les derniers 15 ans, rapportés en 2005. À la prison pour femmes, à Kingston, Ontario, un groupe de 15 femmes autochtones prisonnières ont participé à un jeûne pour exprimer leur solidarité avec les Mohawks de Kaneshetaki. Une des femmes qui jeûnait, Karen Denio, aurait été trouvée inconsciente dans sa cellule et est morte à l'hôpital peu après. C'était uniquement avec le Sisterhood autochtone à la prison pour femmes que Denio a, pour la première fois, affirmé ses origines autochtones et qu'elle a pratiqué la spiritualité indigène. Elle était une des 4 femmes autochtones détenues à se suicider à la prison pour femmes sur une période de 2 ans. S'ajoute en plus Pat Bear, qui s'est pendue dans un parc juste après qu'elle soit relâchée de prison en 1990, ainsi que Janice Nedorf, qui survivra à une tentative de pendaison et qui a subi des traumatismes crâniens majeurs par la suite. Dans 2 des cas, sinon plus, les officiers de prison n'ont pas informé les autres détenus de ces suicides. Plusieurs de ces femmes étaient connues comme étant suicidaires et avaient une histoire marquée par la mutilation et les tentatives de suicide. Malgré cela, les officiers de prison n'ont rien fait. En 1991, une enquête a été menée sur 3 de ces cas. Des membres de l'Association des femmes autochtones du Canada se sont retirés de l'enquête après qu'un avocat ait fait une remarque raciste à Fran Sugar alors qu'elle témoignait. L'association s'est aussi opposée à la preuve qui était présentée et à la nature du processus en soi qui était biaisé par un parti pris favorable à l'incarcération. En 1994, un accrochage entre détenus, dont plusieurs étaient autochtones, et les femmes matons à la prison pour femmes a été utilisée comme un prétexte pour faire un raid dans l'unité d'isolement à l'aide de l'anti-émeute constituée de mâles masqués, le GIT, groupe tactique d'intervention. Un enregistrement vidéo de la brutalité patriarcale et de la torture commise par l'anti-émeute durant ce raid a été montré publiquement après, générant alors un autre scandale pour la prison. 2 semaines après l'assaut, 6 des prisonnières ont été transférées dans une zone d'isolement au pénitencier des hommes de Kingston. Les autres femmes ont été mises en isolement à la prison pour femmes pour une période de 8 mois et ont été privées de lits, de vêtements, de matériel pour écrire, d'exercices et de contact avec leur famille. 2 femmes partirent une grève de la faim et de la soif pendant 3 jours afin de résister aux conditions d'isolement. En 1996, la commission d'enquête du gouvernement du Canada recommanda de fermer la prison dû à certains événements, qui prit place à la prison pour femmes en 1994. Cette prison avait été construite en 1934 et durant les 4 premières années de son ouverture, la commission royale recommandait de la fermer. Finalement, elle a été fermée en 2000. Pendant plusieurs années après, les femmes prisonnières étaient détenues en isolement dans divers pénitenciers d'hommes à sécurité maximale à travers le pays. En février 2003, 3 femmes autochtones prisonnières à l'institution pour mâles de Spring Hill, en Nouvelle-Écosse, ont initié une grève afin de pouvoir assister aux cérémonies de Sweat Lodge, hutte de sudation, d'être transférées dans des prisons pour femmes et de pouvoir baisser leur classement sécuritaire par l'entremise de programmes en prison. La répression de la spiritualité des prisonniers et prisonnières autochtones se poursuit en 2005, année de l'écriture de ce texte. Le journal Windspeaker a publié un rapport en février au sujet d'une restriction proposée et renforcée par les unions des gardes de l'Alberta. Mike Renick, un porte-parole de l'union, dit que les détenus autochtones peuvent aller dehors si ils et elles veulent brûler du foin d'odeur. S'il fait moins 25 degrés et que c'est si important que ça pour toi, alors affronte le froid, a-t-il recommandé. La Bible chrétienne ne me tue pas. Le foin d'odeur est cependant cancérigène.
Maintenant, il y a des communautés entières de gens qui ont été adoptés, ont été abusés, qui ont perdu tout sens de leur identité et qui se sont retrouvés dans les institutions de ce pays, telles que les prisons et les hôpitaux psychiatriques, ou qui se sont retrouvés à la rue. Ce sont les sans-abri, ce sont les femmes disparues et assassinées. Leurs enfants sont perdus, pris en charge par les sociétés d'aide aux enfants, et leurs enfants poursuivent le cycle de l'alcoolisme. De la violence.
The highest rate of imprisonment in the world right now is Canada of Indigenous peoples.
Le plus haut taux d'indigènes emprisonnés en ce moment à travers le monde, c'est au Canada, plus qu'aux États-Unis, en Australie. Le plus haut taux d'indigènes emprisonnés, c'est ici. Et donc, combattre la loi des Indiens et le combat pour être reconnu en tant qu'Indien continue au sein de tous ces combats. Donc la chanson dont vous avez entendu des bribes est du groupe Ulali et s'appelle Mother. Et l'entrevue que vous venez d'entendre ou enfin l'extrait d'une conférence dont vous pouvez trouver l'entièreté sur le site appelé International Cry, qui est faite par une professeure d'université qui est Mi'kmaq, donc qui est d'une nation autochtone du Canada. C'est super intéressant si vous avez l'opportunité de regarder la conférence qu'elle a fait, qui s'appelle Genocide Assimilation, qui est une vidéo. Et donc j'ai pensé conclure cette émission avec un texte qui a été écrit cette année à la suite des manifestations qui sont produites autour du G20 à Toronto. Donc j'espère qu'à travers cette émission, vous aurez appris davantage sur la condition des femmes autochtones au Canada, des femmes en général et des autochtones, et que ça vous a donné envie d'en apprendre davantage. Et donc je vous rappelle, si vous cherchez des textes en français au sujet des luttes autochtones au Canada, vous pouvez vous rendre sur le site KK Canada en le tapant dans un moteur de recherche, vous tomberez dessus.
La prison comme ligne de front de la Révolution, un court essai écrit par Juliette Belmas. Aux manifestations du G20 à Toronto en 2010, plus de 40 000 personnes ont marché pour la justice économique, les droits des femmes, la justice environnementale, l'anti-guerre, les droits des autochtones, la libération des queers et des trans, ainsi que pour la justice des migrantes, pendant qu'un petit groupe de gens ont couvert leur visage et ont exprimé leur colère en fracassant des symboles du capitalisme. Ensuite, des milliers de personnes ont été pourchassées et arrêtées. Il y a toujours des arrestations en cours. Plusieurs sont étiquetées comme dangereuses pour de moindres accusations liées au vandalisme. La journée pour la justice des prisonnières de 2010 marque un jour où la communication privée est attaquée et où l'espace public est maintenant couvert de caméras. Non seulement toute surveillance est maintenant possible, c'est même devenu une invasion de l'intimité qui est acceptable afin de criminaliser les pauvres et pour protéger les forces sociales dominantes dans la société. Même les leaders du changement social se montrent sur caméra, déclarant leur légitimité et rappelant les règles de la loi, se faisant alors complices au même titre que leurs propres agents de répression et de contrôle. Et ça me fait penser que la prisonnière, en d'autres mots, les pauvres, les dégénérés, les antisociaux, ont toujours été et seront toujours les lignes de front de la révolution. Quand je suis allée en prison pour avoir attaqué des sex shops et un complexe industriel militaire dans les années 80, j'ai pas trop fait attention à ce que les leaders du mouvement disaient. Plutôt, j'ai étudié la criminologie pour m'aider à passer le temps et rapidement, j'ai appris sur le panoptisme et qu'en soi, la véritable nature de la prison, c'est d'augmenter la sécurité par l'efficacité d'une série de chambres d'isolation dont les murs sont spécialement construits pour arrêter la prisonnière de parler ou de frapper et ou de comploter. Pendant ce temps, nous, les prisonnières, communiquions au quotidien à l'aide de codes puissants partagés par d'autres prisonnières à travers le monde, dans le but de construire une solidarité collective et réclamer notre espace bien au-delà du mur. Je rappelle les femmes du nom de Sons of Freedom d'Ukobo et comment elles ont résisté en se passant leurs tricots d'une à l'autre avec des codes spéciaux écrits entre les mailles pour se dire quand se déshabiller, quand foutre le feu et quand faire la grève de la faim. Mis à part leur tactique, leur révolution survécut de façon impressionnante, même si ça éventuellement succombait à la légitimité comme c'est souvent le cas. Même Bakounine et Kropotkin, quelques anarchistes au tournant du siècle, sont arrivés à se transmettre des codes dans le ciment des murs et à faire grandir un mouvement anti-autoritaire qui a fleuri bien après leur temps. Donc aujourd'hui, quand les leaders pour le changement social flattent les médias sans vraiment y penser afin de légitimer leur position dans la prison panoptique en assistant à la criminalisation de communautés ciblées et aux mouvements sociaux, ils sont alors complices de ce système, de façon épouvantable et de nature orwellienne à travers la socialisation. Ces mots de JFK me sont venus à l'esprit. Celles et ceux qui font du changement pacifique quelque chose d'impossible rendent inévitables les révolutions violentes.
Donc la prison comme ligne de front de la révolution.
Féministe pour déranger ce soir avec l'émission anticarcérale Les murs ont des oreilles sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Dans toute la partie en fait qu'on vient d'écouter donc pour notre émission sur les femmes et la prison, les femmes en tôle. Et du coup, cette partie qui était plus spécifiquement sur l'incarcération des femmes autochtones au Canada. Et on voit bien dans tout ce qu'on vient d'entendre que les personnes qui se retrouvent en tôle, en fait, sont majoritairement pour des raisons de discrimination sociale et d'une justice de classe, une justice raciste, sexiste, qui envoie en tôle quand les gens refusent de subir une vie de merde qu'on leur impose. et du coup qui criminalise des pans entiers de la société en fait. Et puis du coup pour les femmes autochtones, elles vivent donc une triple discrimination en tant qu'autochtones dans une société coloniale. De femmes et du coup de femmes autochtones de fait pauvres quoi. On voudrait maintenant aborder par le biais de plusieurs témoignages la répression en fait de l'autodéfense des femmes qui se retrouvent jugées, qui se retrouvent stigmatisées et incarcérées quand elles décident à un moment de ne plus subir la violence. Dans le témoignage là qu'on a entendu, Big Mama raconte que elle se retrouve en tôle parce qu'elle a tué l'homme qui voulait la violer quoi. Et à un moment en fait aussi elle parle de ce truc elle s'était fait violer plein de fois avant dans sa vie et le moment où en fait elle décide d'arrêter d'être de ne pas être une victime, de se défendre, de stopper ça, la sanction, c'est la tôle, quoi. Et ça fait aussi que, si on se fait violer puis qu'on se défend pas, on va nous dire « Ah ouais, mais pourquoi t'as rien fait ? Qu'est-ce que tu faisais la star ? Qu'est-ce que tu faisais toute seule ?» etc. Ou alors, « Tu l'as bien cherché ?» Et donc, dans tous les cas, on est coupable, mais quand on se défend, on est coupable aussi. Et on voudrait maintenant vous passer une lecture d'un texte qui est écrit par une ex-détenue, qui parle un peu de tout ça, et qui parle aussi de la manière dont les femmes en tôle, elles vont se retrouver doublement jugées, pour avoir commis un acte illégal, mais aussi pour avoir dérogé à la morale patriarcale, la morale judéo-chrétienne, et en fait, pour avoir refusé la place de victime.
La fumisterie du 8 mars. Jaquette, dite Coucougnette, a été condamnée à perpétuité pour avoir tué et découpé en morceaux son ex-compagnon après qu'elle l'ait surpris en train de violer sa gamine de 6 ans. Dans la même affaire, le complice du pédo a été condamné à 7 ans. Dans ce procès, le procureur de la République a dit clairement à Jaquette qu'elle n'avait pas à se faire justice elle-même. D'autant plus que c'était de sa faute si sa gamine avait été violée, étant donné qu'elle laissait cette dernière aux mains des inconnus le soir, pendant que, soi-disant, elle allait travailler. Mère indigne. Perpétuité plus l'enfant placé. Amen. Carole, une mère de 4 gosses, dont l'un était un légume à cause d'une malformation au cerveau, dû au coup que son mâle alcoolo lui assénait pendant sa grossesse. Elle a tenu 1 an, seule, avec 3 gosses bien portants en bas âge et un autre qu'il fallait nourrir par une paille. Je vous épargne les détails. Résultat, elle a craqué en étouffant le légume pour que les 3 autres puissent grandir à peu près normalement. Sanction, 20 ans. Et les 3 gosses, placés. Amen. Je passe sur des cas banals de nombreuses femmes qui croupissent dans les geôles de la République parce qu'elles ont transporté de la drogue pour ces mâles. Ces mêmes mâles qui ont voté à l'unanimité que la matrice de la femme leur servait pour dissimuler de la cam. Et n'oublions pas non plus ces femmes de parloir qui sont enfermées dehors pour leurs fils, frères, amants, maris, qui eux sont dedans. C'est d'autant plus complexe que quand ces hommes étaient dehors, ils mêlaient leurs affaires comme ils l'entendaient. La femme, celle du voyou, ne devait pas, surtout pas, poser de questions genre « Où tu vas ? Que fais-tu ? » Non, ce n'est pas ton problème. Sauf quand il se trouve derrière les barreaux, là, c'est toi, la femme,
qui devient la solution au problème qu'il lui a posé. Mouais. Et dans ce cas précis, la femme n'existe que dans l'œil de l'homme qui la considère. Il peut l'encenser, la démolir, selon son bon goût, à lui. Circonstance idéale, modulée, mais ça, faut pas le dire. Pour en revenir au cas extrême, entre autres, celui de Jaquette et Carole. Je ne dis pas qu'on a le droit de tuer en toutes circonstances. Je dis que le doute, les circonstances atténuantes, œuvrent fort peu devant le juge quand il s'agit de ces femmes. Et pourtant, chacun sait qu'une certaine tolérance pour celles qui enfreignent la loi, celles qui ont vu rouge comme Jaquette et Carole, c'est l'espoir de se réinsérer dans la société. Et que si on supprime cet espoir, c'est la condition de la femme qu'on supprime. Elle n'a même plus lieu d'être, ou d'exister. Si d'entrée, la tolérance zéro est appliquée, à quoi sert alors l'instruction, les avocats, les procès? Il ne reste plus qu'à distribuer les années de prison. C'est la justice des robots, où les coupables sont envoyés à la casse comme du matériel défectueux. Décréter la tolérance zéro est aussi crétin que d'espérer que son enfant ne mentira jamais, ne volera pas, ne tuera pas, ne violera pas. Bref, qu'il sera un enfant aussi prévisible qu'une pendule. Et dans ce cas, il vaut mieux adopter une pendule. Mais la justice est une affaire humaine, pas une affaire de machine. Si on la sait aveugle dans les tribunaux, c'est pour qu'elle ne soit pas influencée par les apparences. En revanche, on ne la sait pas sourde. Mais bordel de merde! Pourquoi n'entend-elle pas les cris de ces femmes qui pleurent dans ces prisons? Il est écrit dans le Nouveau Testament qu'au commencement, Dieu a créé Adam et Ève, un homme et une femme. Et d'après ce que je sais, ils étaient égaux. Je sais aussi que c'est Ève qui a fait manger la pomme à Adam, qui n'a pas dit non. Où je veux en venir? Qu'on ne me casse plus les ovaires avec des mots, des paroles, genre « la femme doit s'intégrer dans la société ». Alors que je sais qu'elle n'a pas à s'intégrer où que ce soit, puisqu'elle était là dès la création. Elle existe, elle a les mêmes droits que l'homme, ce n'est pas un animal que l'on ramène chez soi et à qui l'on doit apprendre à se coucher et à vivre avec le reste de la société. Si la femme s'est tue depuis tant de générations, c'est à cause de la morale judéo-chrétienne qu'on nous prodigue dès le plus jeune âge. Dans les 12 apôtres, aucune femme. L'homme et la femme font partie intégrante de l'espèce humaine. À chacun sa manière et pourquoi tel genre doit se considérer supérieur. Pourquoi certaines devraient faire plus d'efforts pour être égales? Je ne comprends pas. Et c'est d'autant plus paradoxal que ni l'un ni l'autre ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ce qui me paraît important, c'est de savoir sur qui, nous les femmes, devons nous compter. Qui sont nos alliés? D'autant qu'il n'y a pas plus machiste, plus sexiste que les femmes entre elles. Nos complices? Pour améliorer nos situations de vie, de travail, nos rapports à la famille, pouvons-nous compter sur les personnalités, sur les médias qui ne stigmatisent que la violence des quartiers? Pouvons-nous compter que sur les politiques actuelles ou passées qui ne proposent que du sécuritaire? Je pense désespérément que ce n'est pas au sexe dit faible de défaire ce que le sexe dit fort a tissé. C'est à eux de se mettre face à eux-mêmes. Les avancées que les femmes ont eues en France depuis les années 60 n'ont eu lieu que parce qu'elles se sont mobilisées pour les obtenir. Mais n'oublions pas qu'il a fallu pour les obtenir l'aval des hommes. Les femmes ont toujours subi et continueront à subir. Dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, l'esclavagisme dans lequel elles travaillent, les femmes sont malmenées de tout et partout en règle générale. Comment les femmes peuvent-elles se révolter dans ce monde, alors que c'est ce même monde qui est la cause dépendante et indépendante de leur malheur? La violence impérialiste, la violence des grandes puissances, qui s'est abattue sur l'Afghanistan, qui étrangle depuis 50 ans la Palestine et qui aujourd'hui atteint l'Irak, la violence machiste qui est amplifiée par les conditions sociales mettant les femmes dans des impasses sociales, la violence de l'État par le retour de l'ordre moral, les conditions que ces politiques répressives ont sur la vie des familles, et pour en atténuer les effets, ils ont inventé la parité, la violence sexiste qui est amplifiée par la condition des femmes en milieu carcéral. Alors, imaginez la femme détenue, incarcérée, dans un monde fait par et pour les hommes. Dès la garde à vue, elle se fait traiter de tous les noms d'oiseaux. Si elle est auteur des faits, on lui perfuse la culpabilité des faits, la honte qu'elle devrait ressentir en tant que mère de famille. Et si elle ne l'est pas, on la traite de demeurée, de salope, de fille indigne, de mère indigne, que sais-je encore. Alors ne venez pas me gonfler avec cette journée du 8 mars. En tant que femme, je n'éprouve ni le besoin ni la nécessité d'une journée de reconnaissance pour savoir que j'existe. Rien ne me paraît plus dérisoire, plus ridicule, plus abêtissant que l'importance accordée à cette journée. Cette nuance délicate, cette comédie de la journée de la femme, que de snobisme de plus en plus populaire. Abêtissant. Pour terminer, je conclurai par cette phrase qui me vient d'un grand poète dont je tairai le nom par pudeur et modestie, et qui a dit ceci, et je l'approuve entièrement. La révolution des femmes se fera quand elles feront la grève du ventre. Alors, mesdames, on commence quand ? Francine, ex-détenue pendant 6 ans. Texte publié dans L'Envolée.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance, sa fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute d'Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé. Pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec 3 bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. On se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
Alors c'était un morceau d'Anne Sylvestre qui montre avec humour et efficacité comment les femmes sont culpabilisées par la morale judéo-chrétienne. Et on va poursuivre notre émission sur les femmes en tôle avec d'autres témoignages sur la répression de l'autodéfense des femmes et aussi sur la société carcérale en dehors de la prison. C'est-à-dire comment en fait on se retrouve enfermé aussi à l'extérieur et notamment comment en fait la famille, le couple peuvent constituer en fait un enfermement pour les femmes et aussi un lieu de la violence, de l'agression physique, sexuelle, de l'enfermement et toujours dans cette idée de répression en fait de la révolte en fait contre cet enfermement, ça fait que quand à un moment elle décide de le briser, de se révolter et que par moment ça peut aller loin parce que en fait quand on subit depuis des années et qu'à un moment on décide de dire stop, on le fait de la manière qu'on peut le faire quoi. Et comment en fait justement en se révoltant contre ces systèmes d'enfermement que peuvent être la famille entre autres. Elles vont se retrouver incarcérées et jugées, stigmatisées pour leurs actes en fait, parce que une femme n'est pas censée agir avec violence ou commettre des choses illégales. Elle est censée rester là et subir quoi. Et du coup, il y aura un petit passage plus sur justement le lien entre famille et système carcéral et aussi différents deux témoignages.
Alors, ce sera trois montages. Le premier montage est extrait du bouquin « Prisonnière » de Catherine Herrel, édité en 1978, qui est un recueil de témoignages des prisons de Rennes, Fleury-Mérogis et Lille. Les deux autres montages suivants sont extraits de « Trop de peine, femme en prison » de Jeanne-Evelyne Atwood, 1995, Albin Michel. Qui est un recueil de témoignages de femmes en prison aux États-Unis, en France et en Europe de l'Est.
Famille prison. C'est par ces vocations contradictoires que la famille est le centre d'apprentissage de la norme et de la norme. La perversion est simplement le prolongement de la conduite normale. La famille est la première institution qui localise, enferme, cache le mal. La prison ou l'hôpital psychiatrique localiseront, enfermeront, cacheront le mal social que la famille n'aura pas su ou pas pu endiguer. La famille est la première prison sociale et la justice est la suprême autorité familiale. Il y a une continuité institutionnelle entre famille, justice, prison. Même fonction, mêmes effets. Comme la prison, la famille est génératrice de violence. Comme la famille, la prison est génératrice de névrose. Lieu d'enfermement, l'une et l'autre. Lieu d'éducation aussi. Lieu de la honte, du secret et des plaisirs, de l'interdit. Lieu qui appelle à y revenir. La famille et la prison se suivent, se complètent, se renvoient l'une à l'autre des individus de plus en plus mutilés, de plus en plus éteints, de plus en plus morts. Comme la prison, la famille est à détruire pour vivre. Les délits familiaux ne sont pas plus monstrueux que le quotidien familial, sa violence, son sadisme, sa vocation de mort. Pourquoi faudrait-il condamner les accès de fièvre lorsque l'on entretient la maladie ?
Looking at a broken body in the judge asks for a sad platter of a puzzle and not a person. And she's laughing. And she's laughing.
La femme qui aimait les couteaux. À Juneau, tout le monde parlait de la femme qui aimait les couteaux. En quartier de haute sécurité maximum, disait-il. C'est que la fille était vraiment dangereuse. Elle avait donné, paraît-il, 18 coups de couteau à un type, s'acharnant sur lui jusqu'à ce qu'on les sépare. Bonnie était en cellule d'isolement et je n'ai pu lui parler qu'à travers le guichet de la porte. Les responsables de la prison ne voulaient pas que je pénètre dans sa cellule. Trop dangereuse, m'ont-ils dit. Alors ils l'ont transférée dans une pièce spéciale, là où elle prenait sa douche et passait des coups de fil. La prison manquait de personnel, et pour me conduire jusqu'à cette femme, ils ont dû faire venir un gardien et lui payer des heures supplémentaires. Quand ils la déplaçaient, le règlement exigeait que toute la prison soit verrouillée. Personne n'avait le droit de circuler dans les couloirs. Bonnie portait une combinaison de travail orange et ses cheveux étaient enchaînés. Elle avait les poignets menottés et une chaîne partant des poignets était accrochée à une autre chaîne qui lui entourait la taille. Entre ses mains, on avait placé la boîte noire qui empêche la détenue de tourner ses poignets dans les menottes. Elle était petite et pliée sous le poids de ses chaînes. Les trois gardiens, Bonnie et moi, nous avons parcouru lentement les couloirs des heures. Puis les gardiens ont installé la prisonnière à une table près de la fenêtre et l'ont attachée à une longue barre d'acier fixée au mur. J'ai senti dans le regard de Bonnie qu'elle avait des choses à me dire, mais qu'elle avait du mal à commencer. Dans son regard triste et résigné, je lisais qu'elle n'avait aucun endroit où aller, qu'elle était en bout de course. Elle semblait avoir à peine 20 ans. Entre les silences, elle m'a raconté comment son beau-père avait fait, comment il l'avait coincée dans sa propre maison, recommençant encore et encore, l'obligeant à lui céder chaque fois qu'il en avait envie, à le laisser, la palper partout, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Alors, il l'enfonçait. Au début, elle avait voulu hurler, mais il lui avait plaqué sa main sur la bouche. Après, il n'avait même plus eu besoin de faire ça. Elle était devenue complètement muette. Même le jour où elle a craqué, elle est restée silencieuse. Peut-être est-ce son odeur qui l'avait fait craquer, cette puanteur de couches mouillées qui montait de ses cuisses chaque fois qu'il baissait son pantalon. Elle ne se rappelait même plus où et comment elle avait pris le couteau ce jour-là. Elle se souvenait juste qu'elle ne pouvait plus s'arrêter de le poignarder. Dedans, dehors, comme toutes ces fois où il avait plongé sa queue en elle. Et c'est vrai, il avait fallu l'arracher à lui. Telle était l'histoire de Bonnie, la femme qui aimait les couteaux.
Tortured and hysteric, obviously for this normalized, banalized violence to keep your status quo rhetoric. And what is it going to take to smash subtle violence reproducing possessive power? It's in these reflections as these that I try not to leave to take root and empower. And what is it going to take to smash the subtle violence that's reproducing possessive power and constantly devouring? And it's in these reflections as these that I try not to leave, only to power take root and actually flower.
Sim Evan! Sim Evan! Sim Evan! Sim!
J'ai été condamnée pour meurtre avec préméditation, j'ai tué mon mari. On s'était mariés le 10 juin 1989, il est mort le 11 novembre la même année. Au début, quand on s'est rencontrés, il n'élevait jamais la voix. Il ne levait jamais la main sur moi. Mais après notre mariage, il est devenu obsessionnel. Il s'est mis à vouloir contrôler toute ma vie. Par exemple, il était dans la voiture, il m'ordonnait de venir, et là, il m'attrapait, il me traînait sur la route par les cheveux. Ou alors, il me prenait le sein, il le tordait dans tous les sens, jusqu'à ce que j'aie des meurtrissures tout autour. Une fois, il m'a frappé si fort au visage que j'avais les deux yeux en sang. Il m'a cassé le nez, cassé la mâchoire, j'ai eu 3 commotions cérébrales. J'ai quitté plusieurs fois. Et je me laissais pas faire. La façon dont j'ai été élevée à la campagne, si on te frappe, tu frappes aussi. Alors je me suis défendue, mais il a toujours gagné. J'ai essayé de trouver de l'aide. Il me frappait, surtout quand il était saoul. Moi aussi, je buvais. J'ai décidé qu'on irait aux alcooliques anonymes. Il me disait toujours que jamais on divorcerait, il me tuerait avant. Il ne croyait pas au divorce. Il a essayé de me séparer de ma famille, je ne me laissais pas faire. On se bagarrait là-dessus. Mes sœurs ont dû nous séparer, le maîtriser pour que je puisse m'enfuir. 2 fois, j'ai fini à l'hosto. Je suis allée voir ma conseillère aux alcooliques anonymes. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'étais dans un état épouvantable. Ma famille et moi, on est vraiment proches, voyez. Alors je me réfugiais souvent chez eux. La nuit en question, mon mari avait bu toute la journée. On a commencé à picoler avec lui, vers 11h, mon neveu Eric et moi. Donc, on était assez saouls. J'avais vraiment plein de problèmes. On était tous les deux des gens très violents. On avait passé la journée à se battre. Il s'est mis à me frapper le visage avec une lampe. Moi, je balance la lampe dessus. C'était comme ça tout le temps. Comme j'étais saoule, je perdais conscience périodiquement. À un moment donné, la bagarre est devenue plus sérieuse. On s'est battu pour son couteau. J'ai basculé en arrière. Il est accidentellement tombé sur le couteau, qui lui a transpercé l'aorte. Il est mort en 1/4 d'heure. J'ai pris la voiture et pendant 4 heures de suite, j'ai roulé, sans but, en sanglotant. La police m'a trouvé, dans une cabine téléphonique. J'ai appelé ma conseillère au centre d'orientation pour toxicomanie et alcoolisme. Mais bien avant tout ça, j'avais déjà des gros troubles caractériels. Toute jeune, j'étais à Kramer House, un centre pour enfants à problème. Quand j'avais 12 ans, je suis restée 1 an à peu près. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois les choses tout autrement parce que j'ai beaucoup changé. Je me rends compte de ce que j'ai fait toute ma vie. Vous voyez ? La drogue, la folie. Aussi loin que je me rappelle, ma vie était déjà chamboulée. Ma sœur m'a raconté que quand elle avait 7 ans, mon père l'a obligée à sortir de la maison pendant qu'il braquait une arme sur la tempe de ma mère. Toute petite, j'étais malade avec la grippe, il n'a pas laissé ma mère m'emmener à l'hôpital. Une fois, il paraît qu'il m'a mis les jambes en sang avec des coups de fouet. Mais vous voyez, de 8 à 12 ans, je me souviens de rien. Tout ce que je sais de mon passé, c'est ma sœur qui me l'a raconté. Je sais que plus tard, mes parents ont divorcé. Maintenant, ils sont remariés ensemble. Mais pendant des années, ils ont été divorcés. À l'époque du divorce, mon père était assis devant la maison avec un flingue. Il attendait qu'on sorte pour nous tirer dessus. Il était complètement dingue, vous voyez. Ma vie, ça a été de la démence. Si on m'avait pas mise en prison, je serais morte. J'étais condamnée pour meurtre avec préméditation. Sur le moment, le procureur m'a proposé de faire 10 ans à 25%, c'est-à-dire avec obligation de faire 25% de la peine avant de pouvoir solliciter une libération sur parole. Mais mon avocat m'a dit de ne pas accepter, qu'on pouvait mieux faire, qu'on pourrait faire changer le chef d'inculpation pour que je ne prenne pas une peine aussi longue. C'est ce qu'il a dit. Alors je me pointe au procès et il me donne 25 ans. Si on avait gagné, ça aurait été la gloire pour lui, genre Johnny Cochrane, O.J. Simpson, vous voyez. Mais comme on n'a pas gagné, eh ben je dois faire 25 ans. Et OJ, lui, il est libre. Le système juridique est dégueulasse. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Il est fondé sur le fric, la politique, les relations. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais dans mon cœur, je suis sûre qu'OJ Simpson a tué Nicole Brown. S'il n'a pas été condamné, c'est que 1, c'est un homme. 2, il a acheté le système judiciaire. C'est injuste. Parce que moi, j'ai pas 8 millions de dollars. Sinon, j'aurais pu me payer la liberté. C'est triste, mais les choses se passent presque toujours comme ça. Dans ma ville natale, je connais des gens qui ont tué d'autres. Mais ils n'ont jamais passé un jour en prison. Parce qu'ils ont d'influence politique. Il ne s'agit pas de culpabilité ou d'innocence, uniquement d'influence. Et aussi, il y a une grande différence entre les prisonniers hommes et femmes. Je fais une peine bien plus longue qu'un homme qui aurait tué sa femme. Ici, on est dans la ceinture de la Bible. Ça veut dire en plein sud religieux. Les gens estiment que les femmes devraient rester chez elles à faire le ménage. Alors quand des choses comme ça arrivent, c'est toujours la faute de la femme. Ils pensent que j'aurais dû me laisser tabasser sans rien faire.
So did you think I would be there? Did you dress up? Did you hope you would see me there? And how could you think I would be there after you messed up? Did you think I would?
Alors, vous êtes toujours sur Dégenré et on vient d'entendre un morceau de musique qui s'appelle Overing et qui parle de l'enfermement dans le couple. Et du coup, c'est en lien et sur le même thème que les deux lectures de témoignages qu'on vient d'entendre qui parlent du coup de comment les femmes, elles sont contrôlées aussi à l'extérieur de la prison. Et du coup, on voit aussi dans ces textes, on entend comment les actes d'autodéfense ou de vengeance ou de protection des femmes vis-à-vis des violences sexistes, ils sont réprimés, et ils sont réprimés notamment par la prison, et ils sont pas reconnus comme de l'autodéfense. Et surtout, ce qu'on comprend dans ces textes, c'est ce que d'habitude on appelle la liberté ou la vie en dehors de la prison. Et ben pour elles, c'est pas de la liberté parce qu'elles peuvent pas se sentir libres dans ce monde avec le patriarcat et notamment parce que les violences sexistes sont pas reconnues comme telles. Mais maintenant, on va lire un texte qui est une lettre qu'une personne qui s'appelle Isa a écrite quand elle était en prison. Et qui parle, elle, plus de la société de contrôle, pas patriarcale en fait, mais plus en général, le contrôle social, les flics, la surveillance, enfin, la répression aussi, et l'omniprésence de la police. Du coup, elle parle plutôt de ce genre de contrôle social. Et alors, elle a été arrêtée dans le cadre d'une procédure antiterroriste en 2008, en mai 2008, et elle était simplement accusée d'avoir mis feu à une dépanneuse. Alors, elle a écrit ce texte-là. Alors oui, maintenant, faut savoir que maintenant, elle est en contrôle judiciaire et en liberté conditionnelle. Alors, elle a écrit cette lettre-là quand elle était encore arrêtée et elle était à une prison de Lille après avoir été transférée de Fleury-Mérogis. Je me décide enfin à écrire. 4 mois et demi après mon incarcération en mandat de dépôt, parce que cette cage gigantesque mais étriquée qui nous traque dehors et dedans m'écœure d'un dégoût incommensurable. Comment ne pas penser à la chasse policière qui se rabat sur nous, dehors, comme un poison qui se répand, déterminée à étrangler la révolte et à asphyxier les solidarités. Comment oublier nos proches qui se font suivre et épiller, arrêter, contrôler? Comment ignorer la politique d'un pouvoir qui, soucieux de survivre à sa propre nuisance et médiocrité, bâtit la légitimité de sa gouvernance sur le sentiment d'insécurité et sur la division de ses sujets? La crainte d'un crime macabre et de hordes de barbares, tantôt spontanées, tantôt organisées, est indispensable à l'État pour justifier une stratégie répressive, sécuritaire et policière qui pérennise ses pleins pouvoirs. Les citoyens peuvent dormir tranquilles. L'État veille et condamne les pédophiles criminels, les terroristes assassins, les malfrats sanguinaires qui foisonnent dans nos quartiers. La menace est partout, et les mots sont puissants pour créer le danger. La réalité est que l'économie de la peur est un marché fructueux et très épanoui. Les caméras de surveillance pullulent, ainsi que les sociétés privées de surveillance. Les nouvelles technologies excellent en matière de sécurité et de mouchards. De même, la police grouille dans nos rues et dans nos gares. La justice est mécanique et expéditive. Les prisons, de toutes sortes, fleurissent et se surpeuplent. C'est évident. Le monde est partagé entre honnêtes gens d'une part, et puis les pauvres, les chômeurs, les sans-papiers, les immigrés, les jeunes, les grévistes, les sans-permis, les escrocs de la sécu, les fraudeurs, les petits trafiquants du marché noir, les voleurs de pommes, les agités qui outragent et se rebellent, les insoumis qui refusent l'identification et le fichage, les alcooliques, les drogués, les adeptes de pétards et de fumigènes, les prostituées, les dépressifs, les bagarreurs, les faucheurs, les casseurs, les saboteurs, les fainéants, les curieux de lecture subversif, les vagabonds, etc. Dans un monde gouverné à la faveur des honnêtes gens, on ne peut accepter un écart de conduite coupable et la lutte pour accéder à cette classe est vorace et se mesure au mérite. Travaille avec zèle, dénonce ton voisin, élève tes enfants à la grandeur de l'identité nationale, suis avec docilité les directives du parti. Existe-t-il réellement une conscience du monde aussi servile et exigu? Est-ce le triste ordre qui nous régit? Nous ne sommes pas dupes et n'entrons pas dans ce jeu. Nous n'incarnerons pas ces épouvantails. Nous ne serons ni des boucs émissaires ni des martyrs. Dans une société où il est bon de se taire et de rester à sa place, la révolte peut être combattue à coups de matraques, de murs et de barbelés, d'irradiations aux discours dominants et calomnieux. Elle ne sera pas vaincue. Les idées et la pensée critique n'ont ni maître ni frontières, et les esprits libres auront toujours la rage de vivre du carcan éternel des oppresseurs, exploitants et des exploités opprimés. Voilà. Alors, c'était le début de la lettre que Isa a écrite de la prison de l'île Séquedin en 2008 et qui parle du contrôle aussi à l'extérieur. Alors, voilà, c'était un peu le thème en général de cette émission. Et moi, je trouvais ça très intéressant et super fort de parler justement, enfin, de donner la parole à des personnes qui sont en prison et qui parlent du contrôle de l'extérieur et du manque de liberté à l'extérieur. Mais voilà, alors on arrive sur la fin de l'émission et on a une annonce à faire pour le programme de cette fin de semaine.
Ouais, du coup, on a une annonce qui, ben, malheureusement, reste dans le thème de la société carcérale parce que c'est un appel à un nouveau rassemblement en soutien à Abdou, qui est un gay sans papier sénégalais qui a dû fuir son pays en raison de son homosexualité il y a 2 ans. Là, il y a déjà eu 3 rassemblements et la préfecture continue de s'en foutre et maintient l'OQTF, c'est-à-dire l'ordre de quitter le territoire français. Donc, il est toujours sous la menace constante d'une expulsion. Donc, le rassemblement, c'est ce samedi 12 février à 14h et c'est place Félix Poula. Puis ça rappelle aussi que la prison, c'est aussi les frontières et que de la même manière, il faut les détruire.
Ça, c'est bien dit. Du coup, je vais juste annoncer les prochaines émissions. On vous invite à écouter Radio Kaléidoscope 97 FM mercredi prochain de 18h30 à 20h. Ça sera Les Murs ont des oreilles. Et la troisième émission croisée, ça sera le 23 février, mercredi 23 février de 18h30 à 20h. Du coup, la semaine prochaine, on parlera
surtout des femmes qui sont à l'extérieur et qui vivent la prison au jour le jour en allant au parloir, avec une interview d'une femme qui a eu des proches en prison et qui connaît bien cette réalité-là. Et la troisième émission, on parlera surtout des réalités de la tôle et de comment c'est vécu par les femmes à l'intérieur. Et des luttes aussi, et de la répression des luttes en prison.
Et alors la prochaine émission, mercredi prochain, il y a une écoute collective.
Oui, au local autogéré, 7 rue Pierre Dupont. Donc on vous invite à venir à partir de 18h pour écouter l'émission ensemble et ensuite partager les réflexions qui nous viennent. Voilà, au revoir.
Et ben maintenant on va terminer sur une chanson de Dominique Grange, qui est une personne qui a pas mal chanté dans la fin des années 70, dans les années 70 en fait, puis qui a ressorti un CD, enfin même plusieurs CD depuis le début des années 2000, et là c'est une chanson qui parle de la prison. Alors voilà, on peut l'écouter maintenant.
Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes, cette voix qui crie insurrection, ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Paysans, ouvriers ou précaires, immigrés, militants, clandestins, les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire, il y en aura pour tous et pour chacun. Car te prendre ta liberté leur suffit pas, la prison c'est une zone de non-droit. Si tu l'ouvres un jour où t'en as marre, c'est l'isolement, le cachot, le mitard. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Dans toutes les prisons on tabasse, trois matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé, entassé dans quelques mètres carrés. Tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Ceux de Toul ont montré le chemin. Refus de plateau, refus de rentrée, de promenade. Au début, ils voulaient dialoguer, mais le dirlo n'a rien voulu lâcher. Une étincelle et la prison s'est embrasée. Et quand les gars sur les toits sont montés, au badaud attroupé au pied du mur, ils gueulaient « Abat la dictature !» Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Quelque part sur une banderole, ils ont écrit « On nous traite comme des chiens ». D'autres ont crié « Les jeunes avec nous !» Et les médias ont dit qu'ils étaient sous. drôles d'ivrognes que ces hommes en colère, qui soudain osaient se révolter contre les mouroirs pénitentiaires au nom du droit à la dignité. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Monsieur Papon fait des bulles dans son bain, les patrons assassins dorment au chaud. Pendant ce temps-là, chez les longues peines, insidieuse la torture blanche fait son turbin. Et les perpètes en fin d'exil, fin de survie, les détenus âgés, malades, handicapés, déshumanisés, méprisés, abandonnés, agonisent, chaînes aux pieds, mains menottées. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révolté des prisons Bastille, le cœur du peuple bat pour vous. Le cœur du peuple bat pour vous. Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Loos, Amiens, de Nîmes, de Bapaume, Caen, Périgueux, Melun, La Talaudière, Saint-Maur, Arles, de la Santé, des Baumettes, de Fleury-Mérogis, de Lannemezan, Poissy, Bastia, Angers, Tarascon, Perpignan, Pontoise, Muret, Fresnes, Mulhouse, Grenoble, Saint-Michel, Draguignan, Mende, Enzichem, Besançon, Lyon-Saint-Paul, Saint-Joseph, Avignon, Fontevraud, Ajaccio, Hesse, Saint-Martin-de-Ré, Bois-d'Arcy, Angoulême, Évreux, Dieppe, Beauvais, Saintes, Coutances, Mesquelleux, Nantes, Vars, Dijon, Montpellier, Douai, Rouen, Rennes, Pointe-à-Pitre, Tulle, Hermiguen, Béthune, Saint-Mihiel, Colmar, Neuvic-sur-Lille, Remire-Montjoly, en Guyane, Moulin-Yzeure. Cette voix qui crie insurrection!